Emmanuel Macron qui vient donc d'arriver à Washington. On voyait il y a un instant cet accueil du président américain Joe Biden pour un sommet de l'OTAN. Le président de la République qui est donc sorti de son silence en publiant cette lettre aux Français. Voilà, on voit les images du chef de l'État arrivé à Washington et qui salue le secrétaire général de l'OTAN et le président américain. Plusieurs phrases. Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante. Jean-Luc Mélenchon, il y a un instant, dénonce un veto royal et demande à Emmanuel Macron de céder en quelque sorte à la demande du nouveau Front populaire d'installer un de ses membres à Matignon. Pour en parler ce soir, j'accueille mes invités. Ce plateau est nombreux, fourni. Bonsoir Olga Givernet.
Bonsoir.
Représentante du camp présidentiel, députée réélu Renaissance de l'Ain. Bonsoir Edwige Diaz. Bonsoir. Du Rassemblement National, de la députée de la Gironde et vice-présidente du parti. Bonsoir Amandine Atalaya. Bonsoir. Éditorialiste politique BFM TV. Bonsoir Sylvain Bourmeau. Bonsoir. Journaliste, vous dirigez le Média en ligne. AOC, bonsoir Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint à la mairie de Paris, député socialiste élu à Paris. Et bonsoir Thomas Soulier, bonsoir, chef adjoint du service politique de BFM TV. Pour commencer et pour essayer de décrypter, parce qu'il faut toujours le faire avec le président de la République, puisqu'il utilise toujours des formules, mais voilà, il faut faire un petit peu comme Champollion avec les hiéroglyphes. Ce qu'on comprend en fait quand on lit cette lettre, c'est qu'il dit niette à la volonté du nouveau Front populaire de nommer l'un des leurs à Matignon.
Ça c'est la première chose, c'est clair, il le dit proprement avec de jolies formules, mais si on a le décodeur Macron, c'est clair, il ne compte pas nommer un Premier ministre qui vient du nouveau Front populaire, même si un nom a été trouvé. Deuxième enseignement, il veut prendre son temps, et même son entourage disait à l'issue de l'interview dans la presse quotidienne régionale, il laisse le temps au temps. En clair, débrouillez-vous, mais rendez-vous en septembre. Et puis, troisième enseignement, il y a au moins une annonce dans cette lettre ouverte. Le gouvernement va bientôt démissionner parce qu'il dit, le président, ou plutôt il écrit, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine. Donc en clair, d'ici à jeudi prochain, jour de l'élection du président de la présidente de l'Assemblée, cette fois-ci, il acceptera la démission de Gabriel Attal.
Et on va décliner tout ce que vous venez de nous synthétiser. Emmanuel Grégoire, je me tourne vers vous, puisque vous êtes le représentant ce soir du Nouveau Front Populaire. Visiblement, c'est raté. Hein. Vous demandiez encore hier qu'Emmanuel Macron accède à votre demande. Vous ne l'avez pas convaincu.
Oui, écoutez, c'est les déclarations du président. D'abord, par écrit, c'est incongru alors qu'il est en déplacement à l'étranger. Ces déclarations sont graves et dangereuses. Grave.
Pourquoi ?
Parce que ce n'est pas le rôle d'un président de la République, y compris au nom d'un principe constitutionnel qui est celui de l'indépendance de l'exécutif et du législatif, de faire des pressions sur l'organisation de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Et c'est grave quand un président fait cela. Et c'est dangereux parce que je pense que le président de la République...
Pardon, je me permets de vous couper. Il dit simplement, lui dit, peut-être que vous contestez cette analyse du scrutin, lui dit, aucune force politique n'est en état de constituer une majorité.
Il n'y a pas besoin de lui pour le savoir. Et c'est les Françaises et les Français qui l'ont choisi. Donc ça, ce n'est pas la partie la plus intéressante de son courrier. Et puis surtout, pour mettre 3 jours pour l'écrire. Ça, tout le monde le sait, y compris le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête et n'ignore pas qu'il n'a pas la majorité absolue. On n'a pas besoin de l'oracle de l'Élysée pour le comprendre. Mais c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'en prononçant des oukases sur la réinterprétation des résultats, y compris dans le sens de ce qu'il aurait souhaité que soient les résultats, c'est-à-dire le renforcement d'un môle central à l'exclusion de toute autre chose, eh bien, il prend le risque d'organiser une paralysie du travail législatif et donc une paralysie du travail de l'exécutif, puisque... il pourra être, entre guillemets, empêché qu'un gouvernement
mais
soit
Emmanuel
formé.
Je donnerai la parole dans un instant à Olga Givernet, mais vous dites paralysie. On peut aussi imaginer que si d'aventure demain, il décidait de nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire, compte tenu du nombre de députés qu'il aurait, c'est-à-dire moins de 200, immédiatement, ce gouvernement serait renversé. Donc, c'est aussi l'analyse qui prévaut.
Nous n'ignorons pas qu'il y a besoin d'aller chercher, mais la question, c'est est-ce qu'il y a un front du refus qui crée une paralysie par le principe même de du vote systématique d'une motion de censure. Si tous les députés se mettre dans cet état d'esprit, c'est simple. Quelle sera la conséquence ? Ce sera la contrainte pour le président de la République de démissionner. Voilà. Et donc, je pense que sa lettre est dangereuse pour lui-même. S'il crée par oukase, entre guillemets, une pression sur le travail parlementaire, sur l'organisation même de l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, est souveraine et elle l'est par le suffrage des Français, eh bien, il se mettra lui-même dans le pétrin, puisque seule sa démission permettra de débloquer les choses. Et donc, sa responsabilité, elle est de deux ordres. La première, c'est de reconnaître que le Nouveau Front Populaire a gagné, pas majorité absolue seule, c'est une évidence, chacun le sait, mais donc il doit avoir la charge de trouver les conditions de l'exercice du pouvoir gouvernemental qui ferait obstacle à l'adoption d'une motion de censure.
Donc pour terminer très rapidement, puisque je donne la parole à la députée du camp présidentiel, vous redites ce soir, Emmanuel Macron doit nommer quelqu'un issu du Nouveau Front Populaire.
Oui, parce que c'est la logique du scrutin, c'est la logique de ce qu'ont dit les Français.
Olga Givernet, vous avez entendu, ce sont des propos dangereux, ce que vient de dire Emmanuel Grégoire.
J'ai entendu, mais ce que j'entends surtout, c'est que le Nouveau Front Populaire attend d'Emmanuel Macron qu'il finalement légitime ce gouvernement issu du Nouveau Front Populaire, ce qui ne sera pas le cas puisque ce n'est pas lui de le légitimer, c'est au Parlement. Donc la pression dont vous parlez et qu'il mettrait, nous on l'a déjà avec les échéances internes que nous avons à désigner nos instances, à voter pour notamment la présidente de l'Assemblée nationale, le président et le bureau, et ensuite effectivement de voir les forces en présence. En réalité, ce n'est pas des groupes en proprement dit, ce sont des fédérations de groupes qui imposent ces trois blocs, dont le bloc central. Alors effectivement, il y a un nombre de députés pour les uns, pour les autres, où on peut se demander qui est le premier, qui est le deuxième. Je ne crois pas que ce soit de chercher qui sont les gagnants ou les perdants, mais il y a surtout des Français qui ont choisi une représentation plurielle. Chacun peut se retrouver.
Mais Olga Givernet, qui ont choisi? Et là, je change groupe. J'inverse les questions que j'étais en train de poser à Emmanuel Grégoire. Le premier bloc est celui du Nouveau Front Populaire. Donc est-ce que vous comprenez aussi la frustration de ceux qui nous regardent, qui voient l'Assemblée et qui disent effectivement personne n'a la majorité absolue, mais le fait est qu'il pourrait y avoir une forme de logique institutionnelle à ce que quelqu'un du Nouveau Front Populaire soit appelé à Matignon?
Je crois que la question en fait des blocs et du comptage, elle n'est pas encore tout à fait arrêtée. Si le Nouveau Front Populaire...
Sur le Nouveau Front Populaire, il n'y a pas de doute. Il peut y avoir un sujet sur savoir qui de la France Insoumise ou du Parti Socialiste arrive en tête au sein de ce bloc. Je ne vois pas comment un autre bloc pourrait arriver devant le Nouveau Front Populaire.
Oui, mais simplement, on a des blocs en majorité relative et au sein de ces blocs, on a encore des groupes en majorité relative. Donc ça fait quand même une majorité assez dissoute.
Simplement pour dire... Ils ont quand même 20 voix de plus que vous, 20 sièges de plus que vous.
Alors sur le bloc ensemble, mais il y a un certain nombre de députés qui sont volants.
Mais ça va pas s'échanger.
Attendez, on va se compter.
Vous reconnaissez que le président aurait quand même pu ne pas écrire cette lettre et laisser les parlementaires s'organiser avant d'en tirer les conséquences. Il met une pression très forte quand même.
Je doute que vous obteniez cette reconnaissance de la part d'une députée du camp présidentiel. Je peux me tromper, mais
on nous disait
rien en ce moment, mais bon, quand même là,
on nous disait déjà comment
liberté souffle dans le camp présidentiel.
On nous disait déjà comment ça se fait que le président n'a pas encore parlé? Ça va faire 72 heures que les résultats sont sortis des urnes. Comment ça se fait qu'il n'a pas parlé? Bon, je pense qu'il a cadré son propos au travers de cette lettre et ça permet de nous donner, nous, une ligne et de véritablement travailler à cette coalition la plus large pour trouver un gouvernement de stabilité. C'est ce que les Français veulent.
Sylvain Bourmeau, je le disais, le président a été silencieux pendant un peu plus de 48 heures. Ce n'est pas toujours son habitude. Là, il a rompu ce silence. Seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. La nature de ces élections les oblige à bâtir un large rassemblement. Il essaye d'installer cette idée-là. Est-ce que c'est quoi? C'est une façon de gagner du temps? C'est une façon de renvoyer à plus tard, comme ce que disait il y a un instant Thomas Soulier, la formation d'une majorité, le fait d'appeler quelqu'un à Matignon? Comment est-ce que vous analysez cette rentrée dans le débat?
Je ne sais pas très bien à quel jeu il joue. Il n'a toujours pas parlé, il a écrit. Il a rendu sa copie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est en train de suivre un crash course de droit constitutionnel avec beaucoup d'erreurs. D'abord, une première faute en refusant d'accepter la démission de Gabriel Attal parce qu'il devait accepter cette démission suite au vote et un gouvernement d'affaires courantes devait prendre la suite immédiatement. Il vient de le comprendre. Il fait des progrès en droit constitutionnel puisqu'il annonce...
Pourquoi vous dites qu'il aurait dû le faire tout de suite? Parce que Qu'est-ce que ça change?
Mais parce que c'est la règle, c'est la règle républicaine. Lorsqu'une élection de ce type a lieu et porte, met fin à la majorité qui était celle sur laquelle relative il s'appuyait, c'est le cas. Deuxième chose, il apprend ce que c'est que de devenir le président de la République d'un régime parlementaire, en l'occurrence. Ouais. Soit il doit nommer effectivement celui qui est choisi par le bloc le plus important. Est-ce que vous croyez que François Mitterrand a choisi Jacques Chirac en 1986? Est-ce que vous croyez que Jacques Chirac a choisi Lionel Jospin en 1997?
Mais Sylvain Bourmeau, si je peux me permettre, les forces d'opposition qui avaient gagné les élections législatives avaient un candidat pour Matignon.
C'est
ce n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est non s'imposer parce qu'il y avait un fait majoritaire. Ouais. Alors, puisqu'il n'y a pas de fait majoritaire, regardons dans un autre régime parlementaire. Regardons, par exemple, ce qui se passe en Italie. Ils sont spécialistes du genre. Le président de la République, en Italie, dans ce cas de figure, demande au Parlement, au groupe parlementaire, il leur confie une mission exploratoire. Et donc, si Emmanuel Macron était un président de la République qui respectait le régime parlementaire, il aurait confié au nouveau Front populaire une mission exploratoire visant à lui proposer le nom d'un Premier ministre qu'il aurait nommé. Si ce Premier ministre avait été renversé ou n'avait pas été accepté par la Chambre, je rappelle qu'il n'y a pas besoin d'un vote de confiance au Parlement, à la Chambre des députés en France, eh bien, il aurait confié une mission exploratoire ensuite au deuxième groupe, c'est-à-dire au groupe de la droite, pour proposer un nom. C'est comme ça qu'on travaille. Là, il rend une copie de droit constitutionnel qui vaut 0 sur 20, je suis désolé. Bon. Il va apprendre, puisque sur le Premier ministre, il a appris, et il lui a fallu quelques jours pour apprendre. Donc j'imagine que dans quelques jours, il va faire marche arrière, comme toujours.
Je vous donne la parole dans un instant, Edgiel, juste avant Amandine Atalaya, puisqu'on reste sur l'aspect institutionnel. J'ai été étonné, c'est le mot qu'on peut dire, par ce tweet d'Adrien Clouet, député insoumis, je crois que c'est de la Garonne, qui dit la chose suivante, on va le voir apparaître sans doute, il parle d'un coup d'État permanent, faisant référence en cela au livre publié par François Mitterrand, au moment où il était dans l'opposition au général de Gaulle, critiquant la pratique des institutions gaulliennes, ce qui n'a pas empêché François Mitterrand ensuite de s'y complaire pendant 14 ans. Coup d'État permanent, les mots sont forts. C'est un coup d'État permanent, cette lettre du président de la République ?
Non, absolument pas. Cette lettre du président de la République, on peut contester son sens politique, mais institutionnellement, au regard de la Constitution, Emmanuel Macron est dans son rôle, dans la mesure où il choisit le Premier ministre. Qu'il veut choisir, il n'est forcé en rien de choisir un Premier ministre de gauche, il peut choisir un Premier ministre de droite, un Premier ministre du centre. Après, en revanche, beaucoup ont pensé au début que la logique première était qu'il choisisse un Premier ministre de gauche, libre à la gauche de réussir à gouverner ou pas et à s'organiser ou pas. À ce stade, la gauche n'a pas les moyens de ses ambitions. Moins de 200 députés, aucune volonté d'ouvrir la porte pour arriver à avoir des alliés et donc à faire passer des textes et toujours pas de nom alors que nous sommes mercredi, on arrive en fin de semaine. Et par ailleurs, c'est une erreur qu'a faite la gauche au passage parce qu'ils auraient coincé stratégiquement probablement le président de la République si au lendemain de l'élection, ils avaient eu un nom. C'est lui qui aurait eu la pression. Ensuite, ce choix que fait, cette proposition que fait Emmanuel Macron est pour l'instant extrêmement, pas illusoire, mais improbable, parce qu'il faudrait tellement, au-delà du bloc central, qu'il arrive à séduire tellement à gauche, à droite de députés pour ne pas s'exposer à une motion de censure, cette éventuelle coalition, que ça reste hypothétique.
Et on va rentrer dans le détail précisément de ce que propose Emmanuel Macron. Juste avant, Edwige Diaz, là encore, je vais citer votre... patron, si je veux dire, le président de votre formation politique, Emmanuel Macron organise la paralysie du pays en positionnant l'extrême gauche aux portes du pouvoir après d'indignes arrangements. Et son message est désormais « débrouillez-vous, irresponsable ». Je vous avoue que je ne comprends pas tout à fait, parce qu'on ne peut pas à la fois dire que c'est l'extrême gauche aux portes du pouvoir, que c'est la paralysie, débrouillez-vous. C'est... Au fond, en fait, vous regardez un petit peu tout ça comme des spectateurs, puisqu'en fait, vous n'êtes pas dans le coup, là.
Bah, de toute façon, cette lettre, c'est incontestablement un aveu d'échec de la part d'Emmanuel Macron, qui a raté son coup à plusieurs titres. Déjà, il nous avait dit la dissolution, c'était soi-disant pour avoir de la clarification. Finalement, il y a de la fragmentation. Ensuite, il a opéré des manœuvres que nous avons appelées déshonorantes, c'est-à-dire les désistements. Ça, c'était pour essayer de nous faire barrage. Vraisemblablement, là aussi, il a échoué, puisque nous arrivons...
Il a réussi. Alors là, pour le coup...
Non, parce que s'il avait réussi tant que ça...
On n'a pas eu la majorité absolue, donc il a gagné.
Mais eux non plus. Si nous n'étions pas 143,
personne dans le camp présidentiel ne pensait avoir la majorité absolue. Non. Vos responsables ont passé tout l'entre-deux-tours à venir sur les plateaux de télé en disant que vous l'auriez.
Ni les uns, ni les autres. Reconnaissez quand même que si nous sommes dans cette situation de paralysie, c'est parce que grâce à nos 143 députés, ni la gauche, ni la Macronie n'a une majorité suffisante pour gouverner. Donc c'est pour ça en fait que
Jordan Bardella dit qu'Emmanuel Macron a provoqué la paralysie du pays. Par Emmanuel Grégoire, Sylvain Bourmont, il y a un instant. Est-ce que, de fait, il y a une logique institutionnelle à ce que le président de la République nomme quelqu'un issu du nouveau Front populaire ? Donc, est-ce que, au fond, vous comprenez les réactions à gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui, il y a un instant, dit qu'il faut pousser Emmanuel Macron à nommer... Euh, pousser le président de la République à nommer quelqu'un du Nouveau Front Populaire, est-ce qu'il a raison ?
Non, mais sans être constitutionnaliste, je vais vous répondre d'un point de vue politique. Ils sont alliés, ils sont ensemble, ils se sont désistés les uns au profit des autres. Donc maintenant qu'ils s'arrangent entre eux. Et c'est pour ça que je dis qu'Emmanuel Macron est responsable de la paralysie du pays, mais aussi la NUPES, parce que, je vous dis, ensemble, ils ont appelé en chœur à faire en sorte qu'il n'y ait plus 300, qu'il n'y ait pas 300 triangulaires, mais 90. Donc maintenant qu'ils se débrouillent, qu'ils rendent des comptes aux Français, qu'ils assument leur compromission. Parce que s'ils arrivent à essayer de faire un petit arrangement, eh bien leur programme, le programme sur lequel ils ont été élus les uns et les autres, finalement ne sera pas applicable. Et donc en fait, dans cette cacophonie, nous avec Marine Le Pen, elle l'a dit ce matin, nous continuerons de travailler, nous continuerons de préparer l'alternance. Et le plus tôt sera le mieux. C'est pour ça que nous souhaitons qu'il y ait une dissolution dès l'année prochaine.
Thomas Soulier, rentrons dans le fond. Il y a le propos général, le fait d'expliquer que personne n'a gagné, de dire non au Nouveau Front Populaire. Et puis il y a donc la... ce que souhaite Emmanuel Macron comme programme majorité alternative. Je vais le citer. Il demande aux forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide et plurielle. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que, d'abord, c'est une façon d'exclure la France insoumise quand il dit se reconnaissant dans les institutions républicaines ? On ne retrouve pas l'arc républicain, mais on sent que ce n'est pas très loin. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant tout cela ?
Alors, je rebranche le décodeur Macron. Au départ, quand on lit ça, on ne comprend pas grand-chose, il faut le dire. C'est pour cela que l'entourage a organisé une sorte de débriefing au téléphone avec la presse pour essayer de comprendre un peu ce que dit Emmanuel Macron. Dans un premier temps, nous expliquer que c'était aux forces elles-mêmes savoir si elles sont dans l'arc républicain ou pas.
Ouais.
Et puis, petit à petit, bon, ils ont dit non, on reste dans la même ligne, c'est ni RN ni LFI. Et donc, il dit... En gros, qu'entre les LR et les communistes, c'est ce que dit Edouard Philippe, il peut y avoir une forme de coalition républicaine. Dans le sondage Elab ce soir pour BFM TV, la seule coalition qui est la plus populaire, la moins rejetée, parce que les Français rejettent un peu tout, c'est celle-là, cette coalition-là, entre une partie des Républicains et jusqu'aux communistes. Sauf que vous avez entendu Laurent Wauquiez aujourd'hui qui dit qu'il n'y aura pas de coalition.
Vous savez quoi, Thomas ?
On l'écoute ?
Eh ben voilà, écoutons-le, Laurent Wauquiez,
le
président du groupe de la droite républicaine, c'est ça, c'est le nouveau
nom ? Oui, exactement, c'est le nouveau
nom. Écoutons Laurent Wauquiez.
Nous ne participerons pas à des coalitions gouvernementales. On voit ces derniers jours beaucoup d'agitation. Pas mal de ces manœuvres reposent sur des fantasmes ou des illusions au vu des résultats des élections. Mais surtout, nous ne croyons pas qu'on peut répondre à la crise d'un pays par une combinaison d'appareils. Et que la seule bonne façon d'y répondre est par un travail sur le fond, permettant de rassembler le maximum de Français en apportant des réponses positives, non pas sur la base d'accords d'appareil, mais sur la base de propositions de fond sur lesquelles nous allons œuvrer.
Olga Givernet, c'est mal barré. Alors je précise que la sortie de Laurent Wauquiez était juste avant la publication de cette lettre aux Français. En gros, Emmanuel Macron dit, comme vient de l'expliquer Thomas Soulier, possibilité de faire un large rassemblement majorité plurielle. Et là, vous avez l'un des potentiels partenaires qui dit... Coalition, c'est non.
Bah, nous voyons en fait de nouveaux députés arriver qui l'ont été par le passé et qui n'ont pas forcément vu l'évolution de l'Assemblée nationale, avec cette volonté des Français de voir fonctionner par gouvernement d'union nationale ou coalition. Et là, on vient mettre tout de suite des critères et des lignes rouges. Je ne crois pas que ce soit la bonne façon de faire.
Vous êtes Laurent Wauquiez, de la République.
Laurent Wauquiez, que je connais bien, puisque je l'ai patriqué à la région, notamment quand j'étais conseillère régionale, et sur des anciens schémas.
Sauf qu'on a besoin de nouveaux schémas. Vous pouvez contester, donc, vous pouvez dire que c'est des anciens schémas. C'est la réalité politique. Est-ce que ça ne vide pas de sa substance la lettre du président de la République ?
On peut les mettre face à leurs responsabilités. Et je crois que de prendre des positions
on
se le dit nous-mêmes aussi dans notre examen de conscience, de savoir en fait comment on se remet en question, de mettre des lignes rouges. Effectivement, un Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être Premier ministre, il n'a pas la légitimité, je crois que tout le monde en est d'accord. De la même manière pour Jordan Bardella. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on construit cette coalition. Laurent Wauquiez, peut-être a-t-il fait cette déclaration. Moi, je l'ai vu faire des déclarations et revenir après, parce que on a une responsabilité en tant que responsable politique de pouvoir offrir une stabilité au pays. Et je ne suis pas sûr que Laurent Wauquiez soit pour l'instabilité et d'un pays ingouvernable comme l'est le Rassemblement national.
Alors j'ai deux décodeurs, un Macron, un Wauquiez. Wauquiez dit tout et son contraire durant 10 minutes. C'est une masterclass. Donc il dit en même temps, nous sommes une force d'opposition, il n'y a pas de compromission. Mais il dit en même temps... Je propose un pacte législatif.
Oui.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Républicains, enfin la droite républicaine, vont mettre sur la table une dizaine de mesures Mais comme ça, juste, vous voyez. Et comme ça, si dans les prochains jours, finalement, Emmanuel Macron regarde à droite et pas à gauche, eh bien, il pourrait y avoir une sorte de contrat législatif. Et en coulisses, l'union de la Macronie et de la droite n'est plus du tout exclue aujourd'hui.
Emmanuel Grégoire, sur cette grande alliance qui irait des communistes jusqu'aux membres des Républicains, vous qui êtes socialiste, qui donc, dans l'esprit du président de la République, rentrait dans cette alliance, est-ce qu'à la fin, ça pourrait arriver sur ce schéma qui consisterait au fond à laisser sur le bord de la route vos alliés, collègues, voisins, insoumis?
Moi, je pense que ce qui est important quand on est élu député, et c'est le cas pour trois d'entre nous autour de la table, c'est de respecter le contrat moral et politique qui nous lie à nos électeurs. Et moi, mes électeurs, ils sont tous très différents. Il y en a qui sont très exigeants, très radicaux, il y en a qui sont plus constructifs, etc. Mais enfin, ce que je sais, c'est qu'il y avait un accord, un pacte qui s'appelle le Nouveau Front Populaire, qui a fait l'objet d'un candidat dans chacune des 577 circonscriptions. Expliquer à nos électeurs, parce qu'on sait à eux qu'on rend des comptes à la fin, essayer d'être utile et rendre des comptes, que bah, finalement, non, on va revoir la configuration d'une coalition parce que le président de la République fait le tri entre ce qu'il considère être un bon et un mauvais député, ne me paraît pas acceptable et ne me paraît pas sain sur le plan démocratique. Et je reprends moi, ce que vous avez évoqué, parce que comment ça marche dans les pays qui sont très régulièrement confrontés à cette situation? Et ce n'est pas le cas de la France, mais c'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Belgique, c'est le cas dans bien des pays du monde. Le principe est simple, il y a des coalitions politiques, on prend la première arrivée en tête, si elle n'est pas majoritaire absolue seule, on lui demande de trouver les conditions
qui permettraient... Mais Emmanuel Grégoire, si je peux me permettre, vous évoquez ce qui se passe dans les démocraties parlementaires. Dans les démocraties parlementaires, une force politique comme la France Insoumise n'arriverait pas en disant... On n'a pas de majorité absolue, mais de toute façon, c'est tout le programme, rien que le programme, et on ne fera pas la moindre compromis possible.
Alors ça, je comprends qu'il faut un troisième décodeur, c'est le décodeur Mélenchon, mais ce n'est pas ce qu'a dit le Nouveau Front Populaire.
Et ce
n'est pas
ce que j'ai dit.
Non, c'est ce que dit Mélenchon. C'est ce que dit Mélenchon. Ce n'est pas ce que dit tout la France Insoumise.
Écoutez, Manuel Bompard, Clémence Guettet.
La France Insoumise, et vous savez fort bien qu'il m'est arrivé souvent d'avoir des différends avec eux, ne se résume pas à la parole de Mélenchon, et je crois utile qu'elle s'en détache un peu. Ce n'est pas vrai de dire qu'on appliquera tout le programme, règle le programme à 190 députés, si ce n'est de créer les conditions pour ne pas exercer les responsabilités. Donc cette parole de Mélenchon que je considère caduque, c'était une parole pour dire nous ne voulons pas exercer les responsabilités puisqu'à 190, on ne le peut pas ainsi. Et encore une fois, on peut s'en plaindre, on peut refaire le match, etc. Mais c'est ce qu'ont décidé les Françaises et les Français qui imposent effectivement de créer une équipe gouvernementale mais de trouver les conditions pour qu'elle ne saute pas dans les heures ou les jours qui suivent.
Coup, vous m'intéressez et donc... parce que du coup, à ce moment-là, on peut.
C'est une annonce.
Qu'est-ce que vous proposez?
C'est très aimable.
Qu'est-ce que vous proposez? Je voudrais... Alors du coup, alors,
moi, je vous propose ce qui se fait dans tous les pays. Je vous propose ce qui fait dans tous les pays, dans toutes les démocraties parlementaires, et la Ve République de facto devient une démocratie parlementaire parce que les Français l'ont choisi. C'est de demander au groupe arrivé en tête de désigner un Premier ministre qui trouve les conditions de formation d'un gouvernement et qui, dans la circonstance où on n'a pas de majorité absolue seule, trouve les conditions pour ne pas subir une motion censure dans l'instant. C'est assez simple. Hein,
donc c'est sur du programmatique. Donc en fait,
mais évidemment, c'est du programmatique. Mais c'est la logique politique, c'est d'en confier la charge au Nouveau Front Populaire et pas de choisir qui participe ou non à une coalition.
J'aimerais entendre sur ce point Amandine, puis Sylvain Bourmeau. Amandine. Donc au fond, si je résume là les échanges qu'on vient d'avoir depuis le début de cette émission sur les réactions à la lettre et quand on voit les réactions politiques, bon bah ça fait pas avancer d'un millimètre la recherche d'une solution.
Non, parce que le pari d'Emmanuel Macron, c'est que les chefs des différents partis concernés se mettent ensemble dans une pièce, réfléchissent à un programme, se mettent d'accord et qu'en sorte une coalition. Sachant, quand on regarde ces dernières années, que la droite et la gauche ont rarement été capables de faire un pas vers l'autre et qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui-même, au passage, avec son parti, n'a jamais été dans une forme de culture du compromis, ça paraît illusoire aujourd'hui de penser que cette solution va pouvoir se produire. Il y a eu des petits pas en avant. Par exemple, certains à droite, comme Xavier Bertrand ou Olivier Marleix, ont commencé à ouvrir la porte en disant oui pour une coalition. Certains députés socialistes, mais ils sont très rares, comme Philippe Brun, ont commencé à ouvrir la porte aussi.
Jérôme Guedj.
Mais il reste, dans chaque camp, pour l'instant, minoritaire. Et les autres, en effet, on voit mal aujourd'hui un pari d'Emmanuel Macron aussi serait... mais il ne doit pas y croire lui-même, d'arriver à dissocier les socialistes du nouveau Front populaire et à les faire venir à lui. On comprend bien que ça ne va pas se passer dans les quelques semaines ou dans les quelques mois à venir. Et c'est en ça que le pari d'Emmanuel Macron est étonnant, parce que beaucoup pensaient dans la classe politique qu'il laisserait d'abord sa chance à un gouvernement de gauche qui échouerait a priori assez rapidement faute de trouver des alliés et n'arriverait pas à faire passer des textes, et qu'alors, dans un second temps, par la force des choses, les uns et les autres se diraient il n'y a pas d'autre choix que de faire une coalition. Lui saute cette étape, va directement à la coalition. Aujourd'hui, il n'y a personne pour la faire.
Ça l'aurait changé, vous dites, changer une chose, c'est que ça ressoude la gauche. Et ça, c'est totalement contre-productif pour lui, en tout cas. Parce que la gauche, qui depuis deux jours ne trouve pas de nom, ou cette nuit, les négociations ont été un peu plus âpres que les nuits d'avant, que les insoumis socialistes, eh bien, c'est tendu entre les deux, que les insoumis disent on ne veut pas d'un Premier ministre socialiste et l'inverse. Donc, on voit que cette lettre-là permet aujourd'hui d'avoir plein de réactions à gauche et que les insoumis et le PS redeviennent les meilleurs amis du monde.
La question
juste Sylvain Bourmeau et ensuite Olivier Givernet. Sylvain Bourmeau.
Je partage cet avis. Emmanuel Macron, au fond, la machine dont il s'est servi pour détruire la gauche, puis détruire la droite depuis 2017, en fait, se retourne littéralement contre lui aujourd'hui. Il est toujours dans le même discours, dans la même stratégie rhétorico-géométrique où en faisant du et de droite et de gauche, puis du ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, au fond c'est toujours ce fantasme de faire émerger au centre quelque chose. Mais il ne veut pas se résoudre à la réalité, c'est que c'est impossible et que le clivage droite-gauche en France est quelque chose de profondément structurant. Cette élection l'a montré de nouveau. Et donc ça va rendre difficile la construction de coalition, d'autant que, et je voudrais ajouter ça, la différence entre la situation parlementaire dans laquelle soudainement on se trouve et qui ne correspond pas à la pratique la plus fréquente de ce régime ne peut pas être strictement comparée à ce qui se passe en Italie, en Belgique ou en Allemagne, dans la mesure où on a l'épée de Damoclès de l'élection présidentielle au suffrage universel direct.
Qui ne pousse pas les uns les autres.
Qui pèse.
À la responsabilité.
Et qui viendra remettre les pendules à l'heure, si j'ose dire, de cette 5e République qui décidément ne va pas du tout, quoi.
Je vous donne la parole dans une seconde. Juste, Olga Givernet, ce qui me frappe aussi dans la discussion qu'on a là, c'est que cette lettre, elle est aussi le signe que, visiblement, Emmanuel Macron n'a toujours pas intégré le fait qu'il ne pouvait plus exercer la plénitude de ses fonctions, si j'ose dire, puisque son bloc politique est arrivé troisième, qu'il appelle à un large rassemblement, mais qu'en réalité, les forces politiques avec lesquelles il pourrait faire ce large rassemblement lui ont dit successivement non. Est-ce que c'est pas une façon un petit peu perdue d'avance d'essayer de se remettre au centre du jeu ?
Alors si on compte en numéraire, on est arrivé deuxième puisqu'on est sur 164 députés. Quand vous comptez le bloc central, il est arrivé deuxième derrière la NFP et troisième le bloc de droite.
Deuxième bloc. Oui, excusez-moi.
Donc mais c'est pas pour ça qu'on c'est pas pour ça qu'on revendique d'être en numéro 2 pour pouvoir proposer un gouvernement. D'ailleurs, on est tous conscients que le premier gouvernement qui va être proposé, il va être très instable. Ils risquent de se faire balayer dès le début. C'est pour ça aussi, je pense, que du côté NFP, ils doivent être un peu fébriles par rapport à la proposition d'un Premier ministre. C'est qu'on sait que le premier va être un galop d'essai, que derrière, s'il va tomber les motions de censure, la question de savoir comment est-ce qu'on s'entend va être difficile. Donc là, quand le président le dit, c'est qu'il l'a bien compris, que les différentes remontées, c'est qu'on n'est pas forcément toujours très à l'aise. Donc la question, c'est est-ce que ça va être la deuxième itération, où on va commencer à comprendre qu'il faut travailler ensemble, si on veut pouvoir faire passer des éléments et peut-être de se tendre la main sur des sujets, moi les super profits.
Et vous entendez ce que disait Amandine il y a un instant, elle disait au fond, pour qu'il puisse y avoir à un moment donné cet esprit de main tendue, il faut dans un premier temps qu'il y ait une expérience du nouveau Front populaire au pouvoir, même si elle doit durer de deux semaines à deux mois, parce qu'elle serait tout de suite renversée par une motion de censure.
Ou deux jours. Mais effectivement, on se rend bien compte que le premier qui va shooter, c'est au NFP d'y aller, ça ne va pas être très...
Donc vous soutenez l'idée que ce soit le NFP qui y aille.
Mais vous disiez tout à l'heure que ça pourrait être mandaté, quelqu'un pourrait être mandaté au sein du NFP
C'est la logique.
Peu importe, il faut trouver quelqu'un qui...
Donc pour vous, pour que les choses soient claires, il y aura une forme de logique. Est-ce que dans un premier temps, le nouveau Front populaire soit appelé à gouverner.
On va poser la question autrement. Est-ce que nous avons des responsables politiques que nous pouvons identifier peut-être au sein du NFP ou autre qui soient capables justement de travailler au travers de cette mission pour la coalition ? La question de la nostalgie du retour de l'alternance, elle n'est pas là. Le bloc central est toujours là. Je vous dis, il est arrivé en deuxième position. Mmh. Et donc les Français n'en veulent plus. Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient plus de majorité absolue et ils ne veulent plus d'alternance gauche-droite. Donc là, ils sont là avec ces trois blocs.
Mais je vais aller plus loin. ça veut dire que vous êtes prêt, dans ce bloc central, si d'aventure un gouvernement était mené par le nouveau Front populaire, à voter avec les voix du Rassemblement national une motion de censure. C'est-à-dire que le Front républicain, c'est terminé, il a disparu ou il continue d'être structurant au sein de l'Assemblée nationale?
Non, mais c'est une motion de censure.
C'est une question fondamentale, oui, parce que, en gros, il y a deux manières.
Je
précise ma question. Il y a deux manières de pratiquer la situation à l'Assemblée nationale, où on considère que le Front républicain existe, ouais, et donc on fait comme s'il n'y avait pas de députés RN à l'Assemblée nationale et on calcule les majorités sur le reste des sièges, ou alors on accepte le fait qu'ils sont là et on accepte même éventuellement de voter avec eux. Ça change tout,
c'est,
en fait.
C'est pas le vote avec, c'est le vote également. De savoir.
Alors, allez-y, et puis après j'aimerais
J'ai une question également, tout à fait dans le prolongement. Nous avons été élus, pour beaucoup, pas moi, j'étais élu au premier tour, mais il y a eu beaucoup de députés qui ont été élus sur un principe de front républicain, c'est-à-dire des électeurs de gauche qui ont voté pour des députés de droite ou des électeurs de droite qui ont voté pour des députés de gauche. Est-ce que vous
central,
vous engagez,
hein, parce que, du coup, ensemble, est au bloc
est-ce que,
central.
D'accord, si vous, oui, voulez, si vous voulez, c'est le centre mitterrandien, il est souvent de droite, comme on dit. Une question très simple. Est-ce que vous vous engagez à faire en sorte que ce front républicain se traduise en front parlementaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune fonction, comme ça avait été le cas en 2022, qui soit dealée avec le Rassemblement national dans le dos des autres forces politiques.
Alors là, c'est une question intéressante. Et vous allez répondre. Juste, je fais un point pour ceux qui nous regardent. En 2022, compte tenu des 89 députés Rassemblement national qui avaient été élus, ils ont accédé à un certain nombre de postes, vice-président notamment de l'Assemblée nationale. Votre collègue Edwige Dia, Sébastien Chenu, Hélène Laporte également était vice-président. Et les forces de gauche aujourd'hui explique qu'il faut en 2024 faire en sorte que
nous demandons du respect du front républicain,
vous demandez à ce que les députés élus du Rassemblement national soient exclus de ces
bien
postes
sûr,
à responsabilité.
C'est la cohérence de l'élection d'un très grand nombre de parlementaires.
On ouvre cette parenthèse et on la ferme après pour continuer à parler de ces choses. Mais là-dessus, est-ce qu'il faut ou non mettre un cordon sanitaire pour éviter que les élus du Rassemblement national aient ces postes à responsabilité?
Ça va être dans la main des responsables de groupes qui sont définis On n'en a même pas encore parlé entre nous.
Mais
la question, en fait, la question du principe de la représentation au sein de l'hémicycle et des groupes. Bah, moi, du coup, on peut quand même se poser la question. Et vous,
c'est-à-dire,
vous
c'est-à-dire se poser la question.
Parce que quand on a travaillé sur le mandat précédent, pendant 2 ans, on a fait des missions souvent en co-rapporteur avec des élus qui ne sont pas de notre tendance politique.
C'est pas la même chose. Des électeurs de gauche ont mis des bulletins à votre nom dans l'urne. Je dis à vous, je ne veux pas cibler personnellement.
Tout à fait.
Mais des électeurs de gauche ont mis leur bulletin au profit de députés de droite pour contrer le Rassemblement national.
Et ne pas avoir de majorité absolue.
Vous, à titre personnel, vous mettrez un bulletin pour une fonction élective à l'Assemblée nationale national.
On peut ne pas mettre de bulletin. Il y a quand même un compte numérique qui font qu'ils pourront obtenir un certain nombre
C'est
de postes.
C'est un sujet important. J'aimerais juste qu'on reste sur la lettre du président de la République, Edwige Diaz. Puisqu'au fond, Emmanuel Macron appelle à ce large rassemblement qui vous exclurait donc, qui exclurait vraisemblablement aussi la France insoumise. Hypothèse très concrète, si une telle coalition arrivait à se constituer avec le camp présidentiel, une partie des socialistes, une partie de la droite, est-ce que vous la censureriez? Est-ce que vous déposeriez une motion de censure pour qu'une telle majorité soit renversée?
J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, nous avons toujours fait la démonstration de notre attachement à l'intérêt supérieur des Français. Donc, depuis 2 ans, nous votons tout ce qui va dans le bon sens, nous votons contre tout ce qui va dans le mauvais sens, donc attendons de voir cette proposition qui, vraisemblablement, tarde à arriver. Ce que je voulais vous dire sur la lettre aussi, c'est que, vraisemblablement, Emmanuel Macron ne changera jamais. Parce que dans son courrier, il dit qu'il appelle toutes les forces politiques qui se reconnaissent, je le cite, dans les institutions républicaines, qui respectent l'état de droit, qui sont attachés au parlementarisme et qui sont aussi attachés à l'indépendance française. C'est précisément la description du Rassemblement national.
Vous avez oublié
trois mots,
madame Diaz. Une orientation européenne.
Eh bien, très bien. Nous avons une orientation.
Vous l'avez oublié,
nous avons, nous avons une orientation européenne qui a été, je vous le rappelle, plébiscitée au moment des élections européennes, puisque Jordan Bardella a réalisé le double des voix de Valérie Hayek.
Si je vous prends au pied de la lettre, donc vous aimeriez, en fait, faire partie de ces discussions avec le président de la République.
Je veux juste pointer l'hypocrisie, la mascarade du président de la République qui pourtant nous avait promis qu'il changerait. Même avec Madame Borne, il nous avait parlé de co-construction. Sauf que là, on voit que malgré nos 143 députés, malgré nos 10 millions d'électeurs, il continue d'essayer de nous écarter de la vie politique et parlementaire française. Et je pense que cette action contribuera à l'isoler davantage et je pense que ces actions continueront à nous renforcer sur le terrain.
Amandine Atalaya, pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Emmanuel Macron, oui, je sais que c'est un travail hasardeux, mais je sais que vous saurez l'expliquer avec beaucoup de clarté. Emmanuel Macron dit dans sa lettre, cela suppose donc cette volonté de tenter de faire émerger un accord, cette majorité plurielle, cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. Un peu de temps, c'est quoi ? C'est la date butoir du 18 juillet, jour où le ou la présidente de l'Assemblée nationale est élue et où d'autres postes à responsabilité sont pourvus. Est-ce que ça peut nous emmener jusqu'à la rentrée prochaine dans la mesure où les Jeux Olympiques vont s'ouvrir le 26 juillet ? Qu'est-ce que ça veut dire un peu de temps ?
La question a été posée à des proches du président de la République qui disent que ça peut nous emmener à la fin de l'été, à plus tard, si besoin, à la rentrée, ça prend le temps que ça prend. Et donc, c'est une façon de mettre la balle totalement dans le camp des partis politiques. Si ça traîne, en résumé, ce n'est pas de la faute du président, c'est de leur faute parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, ce qui est d'ailleurs une stratégie souvent utilisée par Emmanuel Macron. Quand ça bloquait avec Elisabeth Borne, il disait déjà « j'espère qu'elle parviendra à constituer une majorité ». Ça a toujours été une façon pour lui, quand il a eu une majorité relative, il a dit aussi l'idée a volé à un moment donné dans l'air d'une possible coalition, libre à eux s'ils le peuvent de faire une coalition.
C'est l'expression de l'entourage du président qui dit souvent « on va leur mettre le singe sur l'épaule
». Exactement.
Et assez souvent, ça se retourne contre eux.
Mais
parce
malheureusement,
que,
oui, voilà, le singe lui ressaute au visage parfois. Et donc là, on comprend qu'on est parti pour être clair pour des semaines et des mois où peut-être il ne se passera rien.
Thomas Soulier, réaction de Marine Le Pen à l'instant, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Si je comprends bien dans sa lettre, Emmanuel Macron propose de faire barrage à la France Insoumise, qu'il a contribué à faire élire il y a 3 jours et grâce à qui les députés Renaissance ont été élus il y a également 3 jours. Ce cirque devient indigne et pendant ce temps, les factures de gaz et d'électricité flambent, les voyous œuvrent en toute tranquillité, l'immigration est toujours hors de contrôle. C'est vraiment dramatique. Peut-être que les Français, en voyant cette lettre, en voyant ce que certains appellent tambouille, ce qui en réalité est aussi la vérité d'un système parlementaire, mais se disent effectivement que leurs préoccupations exprimées pendant les élections européennes, pendant les élections législatives, sont assez loin. Parce que, de fait, il n'y a pas de chambre aujourd'hui pour faire la loi.
C'est sûr que c'est dévastateur dans l'opinion publique, c'est une certitude. Entre le front républicain et l'arc républicain, eh bien, ce n'est pas la même chose pour Emmanuel Macron. Et on voit que ce clivage-là crée beaucoup de doutes, de confusion. Je reviens à peine il y a une semaine, ça paraît une éternité. Il y avait un débat au sein de la Macronie sur c'est quoi l'arc républicain et c'est quoi le barrage au front, le barrage au Rassemblement national. Vous avez entendu d'abord Emmanuel Macron qui dit barrage au RN. Gabriel Attal, même chose, sauf qu'en même temps, Édouard Philippe, Robert Berger, plein de gens de l'aile droite de la Macronie ont dit non. Ouais. Nous, on ne dit pas tout sauf le RN. On dit tout sauf le RN et les insoumis.
Et même parfois les écologistes.
Et parfois certains écologistes. Ouais, ouais. Bon. Et donc, Emmanuel Macron, après, a dit, alors non, oui, c'est vrai. Alors moi, je vais dire tout sauf RN et certains insoumis. Donc, on n'y comprend rien. Comment voulez-vous que les Français comprennent cela ? Donc, avec l'absence de ligne claire entre les deux tours de l'élection législative, on en arrive à cette situation où des électeurs du RN, et même au-delà, se disent... On n'y comprend plus rien à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que le RN, LFI, signe d'égalité ou pas ?
Olga Givernet, sur ce point et sur ce qu'expliquait Thomas Soulier, c'est vrai que quand on écoute les membres de la majorité, il y a de quoi avoir le tournis. François Bayrou, tout à l'heure, expliquait que, je n'ai plus exactement ça, mais au fond, qu'on ne pouvait pas regarder seulement d'un côté et qu'il fallait, si d'aventure il y avait coalition, qu'elle puisse tenir les deux bouts. C'est ce qu'il disait aussi ce matin chez Apolline de Malherbe. Gérald Darmanin, lui, dit « La France insoumise, jamais, je ne voterai jamais un texte du Nouveau Front Populaire », cite certains écologistes. Sacha Houlier, lui, président de la commission des lois sortant, veut carrément réfléchir à la création d'un groupe social-démocrate. Il y a encore une ligne commune parmi les majorités du Bloc.
Il y a des expressions individuelles pour le moment qui doivent se converger. Et là,
oui, ça,
on
attend. Dans des termes galants, ces choses-là sont dites.
Ouais. Et de se retrouver dans un groupe où il y a eu un communiqué de presse qui est parti dans l'après-midi au nom du groupe Renaissance, a suivi également ensuite la lettre du président de la République, ouais. Et ça commence à faire un canal qui est un peu plus lisible. Ça, je vous rassure, nous en sommes aussi ravis, puisque il faut quand même qu'on puisse asseoir le nombre de députés, faire ce groupe au sein de cette alliance ensemble, qui est la deuxième, je le rappelle, et la nécessité ensuite de peser dans les instances pour savoir comment la répartition des postes au sein de l'Assemblée va pouvoir se faire et comment les coalitions vont pouvoir travailler ensemble. La question de se dire, encore une fois, qui va être dans le gouvernement et moi je veux pas un tel, effectivement on va revenir à partir du moment où un nom va tomber. Je sens bien qu'on va aller chercher dans son histoire sur X Twitter, sur tout son historique réseaux sociaux pour voir s'il n'a pas des antécédents de brebis galeuses et donc le problème est encore une fois de pouvoir écarter telle ou telle personne qu'on n'estimera pas dans le cadre de la République. Et si je viens sur la déclaration du président de la République, sur toutes les forces qui sont dans le cadre de la République, quand le Rassemblement national estime qu'en fait, parce qu'il a eu 10 millions de voix, il aurait dû avoir bien, bien plus de députés, ce n'est pas respecté notre système démocratique. Il est peut-être affirmé, moi ça fait plusieurs jours qu'on a ces plateaux et qu'on nous explique qu'en fait, vous n'avez pas suffisamment de députés au regard du nombre d'électeurs, notre système est comme cela.
Bonsoir Raphaël Schellenberger.
Bonsoir.
Député Les Républicains réélu du Haut-Rhin, vous avez sans doute lu, cette lettre du président de la République qui considère donc que personne n'a gagné et qui appelle, je le cite, les forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide et plurielle. Est-ce que vous pourriez en être ?
Ouais, écoutez, d'abord, je me surprends qu'il faille 3 jours au président de la République pour formuler un tel support au biais de la presse quotidienne régionale, enfin comme si c'était un événement et qu'on découvrait quelque chose dans ce qu'il a dit. C'est un échec pour sa famille politique, comme pour l'ensemble du paysage politique français. Ces élections, personne n'a gagné, on est d'accord. Bon, bah, il faut 3 jours au président de la République pour l'écrire. Bon, pourquoi pas ? Ce qui est certain, c'est que ce n'est plus autour de lui que quelque chose pourra se construire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, quand on a été élu parlementaire, on a tous collectivement la responsabilité de faire quelque chose pour le pays. Je n'ai pas, à ce stade, rejoint le groupe de Laurent Wauquiez, qui ne se projette pas dans l'exercice de responsabilité dans les 3 prochaines années. Moi, je pense qu'il y a urgence. Notre pays est dans un état qui n'est pas mirobolant après 7 ans de gouvernance d'Emmanuel Macron, et on ne peut pas se contenter d'attendre 3 ans, de laisser passer, de laisser la gauche, voire la gauche extrême, imposer des idées qui seraient dramatiques pour le pays.
Donc si je comprends bien, Raphaël Schellenberger, vous nous dites que vous ne rejoignez pas le groupe de Laurent Wauquiez et qu'au fond, vous faites partie de ceux à droite qui n'excluent pas la possibilité d'aboutir à un rapprochement avec ce qu'on appelle le bloc central.
Non, c'est pas ce que je viens de dire, et c'est bien ça que je dis que le courrier du président de la République est peut-être même malvenu. Moi, écoutez, je suis député alsacien, je suis élu sur la frontière, et je vois comment ça se passe en Allemagne quand il s'agit, après les élections, de construire un compromis qui permette de tenir un certain nombre d'années. Il n'y a pas lieu de rallier un bloc central, il n'y a pas lieu de rallier Emmanuel Macron.
C'est pour ça, Raphaël Schellenberger, j'ai pas utilisé le mot rallier, j'ai dit un rapprochement. Coalition, cohabitation, Édouard Philippe dit accord technique, Olivier Marleix,
vous avez dit il faut un Premier ministre et des républicains. Je suis très prudent dans les mots que j'emploie parce que c'est un mode de gouvernement, un mode de gouvernance qu'on ne connaît pas en France. C'est quelque chose qu'on va découvrir. Et il y a un risque à ce qu'on tombe dans la caricature, à dire vous vous êtes rallié, vous avez renié vos convictions. Non, moi j'ai un certain nombre de convictions de droite profondes et c'est pour ça que depuis 3 mandats, je me bats contre le vent, contre le marais, pour contre les marées, pour défendre mes idées. Et c'est pas à ce stade-là, alors qu'il reste 3 trois ans avant la prochaine élection présidentielle, le moment, vu l'état de notre pays, de ranger ses convictions dans la poche et de se dire on va laisser tout le monde se casser la gueule et on va revenir dans trois ans avec la solution miracle. Notre pays ne peut plus se permettre le luxe d'attendre. Il faut agir. On verra dans les prochains jours, on verra dans les prochaines semaines comment les choses se décantent ça et là et comment on peut essayer de construire un consensus, un compromis qui ne soit pas un effacement des identités, mais qui soit le traitement des urgences pour notre pays sans que les idées extrêmes n'arrivent à la tête de ce
rapidement,
pays.
Rapidement, Raphaël Schellenberger, quand vous dites parler de ce consensus, c'est quoi la méthode? Est-ce que c'est nommer un Premier ministre issu de votre famille politique? C'est que ça peut être quoi la méthode pour aboutir à ce consensus que vous appelez de vos voeux?
Écoutez, d'abord, je crois que il faut laisser au Parlement le temps de faire. On a été élu dimanche, on est mercredi, il me semble. Les groupes politiques sont progressivement en train de se former jusqu'à la semaine prochaine. Il y a encore un peu de travail, à mon avis. Il y a encore des choses qui vont bouger. Après, il y a une donne de base, c'est-à-dire que pour moi, le Premier ministre ne pourra pas être issu de l'ancienne majorité qui a échoué à ces élections. Et si on entre dans quelque chose, ce sera forcément quelque chose qui ressemble à une cohabitation.
D'accord.
Et pour le symbole, le Premier ministre ne pourra pas être issu de la majorité sortante.
Une toute dernière question, Raphaël Schellenberger. Si vous n'allez pas siéger dans le groupe de Laurent Wauquiez, vous allez siéger où ?
Écoutez, ça c'est quelque chose à quoi on va encore travailler dans les prochains temps.
Moi, je crois d'abord en la nécessité
que un maximum, il y a encore des choses qui bougent, qui se travaillent évidemment, mais je crois surtout que l'heure est grave pour notre pays et qu'il ne faut pas caricaturer, qu'il ne faut pas se précipiter et que chaque parlementaire aura la responsabilité durant tout le temps que durera cette législature d'agir en âme et en conscience.
Merci beaucoup Raphaël Schellenberger d'avoir été sur BFM TV.